Voilà, nous poursuivons ce matin notre série de prédications « Dieu nous parle de nos origines ». Et ce matin, nous avons la quatrième et la dernière prédication sur le premier chapitre de la Genèse. Donc, vous pouvez déjà ouvrir votre Bible aux premières pages, la Genèse étant le premier livre que l'on trouve dans la Bible. Vous savez, la Bible, c'est une sorte de petite bibliothèque avec 66 livres. Et donc, prenez le premier livre, la Genèse. Pour mémoire, nous avons déjà lu en entier tout ce chapitre qui nous parle de la création, de la manière dont Dieu a créé le monde sous la forme d'une semaine de travail, avec 6 jours de travail et 1 jour de repos. Et on voit là un parallèle que l'auteur de la Genèse fait entre Dieu qui travaille pendant 6 jours et qui se repose le 7e, et l'homme qui est appelé aussi à travailler et à se reposer. Nous avons vu aussi que l'homme est créé comme image de Dieu. C'était notre deuxième prédication sur les versets 26 et 27 de ce chapitre 1 de la Genèse. Nous avons vu, troisièmement, que l'homme est une sorte de mammifère unique et responsable. Et nous avions parlé des ressemblances et des différences entre l'être humain et l'animal. Et ce matin, nous allons nous intéresser à une mission particulière qui est donnée à l'homme. Et nous allons lire un seul verset, Genèse chapitre 1, verset 28, que nous avons déjà lu dans les 3 précédentes prédications et que nous allons relire ce matin. Donc, je vous invite à lire ensemble ce verset, Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit, l'homme et la femme, en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître, et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel, et tous les reptiles et les insectes. » Voilà le verset qui va nous occuper ce matin. Je le relis, « Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître, et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel, et tous les reptiles et les insectes. » Ce récit de Genèse chapitre 1 nous montre que Dieu bénit sa création. Nous avons parlé de la louange tout à l'heure, comme une manière de faire l'éloge de Dieu, de dire, de louer Dieu et de le remercier pour ce qu'il est. Dieu est content de ce qu'il a créé et il bénit sa création. Il dit que c'est bien et même très bien. Mais Dieu ne bénit pas seulement l'homme et la femme. Il bénit aussi les animaux. On trouve la même formule de bénédiction un petit peu plus tôt, au verset 22. Regardez toujours dans Genèse chapitre 1. Dieu les bénit, les grands animaux marins et les oiseaux. Et il dit... Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. Même formule que pour l'homme et la femme dans le verset 28. Mais, pour l'homme et la femme, il y a une mission supplémentaire dont nous avions commencé à parler la fois dernière. La mission qui consiste à dominer. Les animaux ne sont pas appelés à dominer la création. C'est l'homme et la femme qui sont appelés à dominer la création. Et j'avais déjà dit la dernière fois qu'un des problèmes qui va se poser à notre humanité au chapitre 3, c'est que l'homme et la femme vont se laisser séduire, et donc d'une certaine manière vont se soumettre à un animal, un serpent dans l'histoire. Le diable qui se présente à eux sous forme de serpent et qui va les tenter, alors qu'ils auraient dû le dominer. Et le soumettre, parce que c'était leur mission. Pour les êtres humains, il y a cette mission supplémentaire qui est de dominer les animaux. C'est ce que nous avions vu la dernière fois. Et ce matin, nous allons parler de la domination de la terre. Rendez-vous en maître. Et nous allons parler de cela en deux temps. Le premier temps, dans cette prédication, nous allons nous intéresser à la question de la multiplication des êtres humains sur Terre. Et dans un deuxième temps, à cette domination humaine de la Terre. Et dans les deux cas, nous allons essayer de réfléchir à ce que nous faisons de ces deux appels, de ces deux paroles de Dieu à notre humanité. Première parole donc, la première partie de notre verset 28, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » J'aimerais simplement faire quelques remarques sur cette phrase. Première remarque, une question. À qui Dieu s'adresse-t-il ? Il s'adresse à l'homme et à la femme. Ils sont tous les deux l'image de Dieu. C'est-à-dire, comme nous l'avons déjà dit précédemment, dans une autre prédication, ils sont les représentants de Dieu sur terre. C'est ça que ça veut dire, image de Dieu. Relisons les versets 26 et 27. Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. Et c'est là que Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. L'homme et la femme, qui sont tous les deux images de Dieu, chacun en particulier et ensemble, ont une mission commune. L'un avec l'autre porte la responsabilité de répondre à l'appel de Dieu d'une manière juste devant lui. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, l'homme et la femme sont appelés à procréer, soyez féconds. La Bible parle de sexe dès la première page. Pourquoi ? Parce que quand Dieu nous parle de nos origines, il nous rappelle qu'il nous a créés sexués. La sexualité fait partie intégrante de notre humanité. Il y a des hommes. Et il y a des femmes. Et l'homme et la femme sont appelés à être féconds, c'est-à-dire à avoir des relations sexuelles. Dans le cadre du mariage, c'est ce que nous verrons au chapitre 2, un peu plus tard. La sexualité entre un homme et une femme est le moyen que Dieu a mis en place pour que nous nous multiplions. La différence des sexes, masculin et féminin, ce n'est pas simplement décoratif, cela répond à un projet de Dieu pour le couple humain et pour l'humanité tout entière. C'est un appel à la vie. Et Dieu dit que c'est bon, et même très bon. Verset 31. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, y compris l'homme masculin et la femme féminin, et leur sexualité, et il trouva cela très bon. On pourrait traduire « parfait ». Il faut arrêter de croire, les amis, comme on l'a fait pendant des siècles, que la sexualité humaine est mauvaise. Ce n'est pas parce qu'ils ont couché ensemble qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu. C'est parce qu'ils ont voulu se passer de leur Créateur pour définir eux-mêmes les règles de la vie. Et c'est à cause de cet égoïsme que leur relation, y compris leurs relations sexuelles, se sont dégradées. Et que nous en subissons les conséquences aujourd'hui encore. Mais Dieu n'a jamais interdit la sexualité à Adam et Ève. Ce qu'il leur a interdit, c'est d'en changer les règles, vous voyez ? Or, c'est ce que fait ou essaye de faire notre société aujourd'hui. Elle essaye par tous les moyens de changer les règles établies par Dieu. En nous faisant croire, par exemple, qu'on n'a pas besoin d'un homme et d'une femme pour se reproduire. Qu'un don de sperme est suffisant pour inséminer deux femmes qui décident de vivre ensemble, par exemple. Et c'est possible, scientifiquement. Mais cela va à l'encontre des bases de notre humanité, sur lesquelles un homme et une femme sont appelés à être féconds, pas deux hommes ou deux femmes. C'est contraire à la volonté de Dieu. C'est une manifestation de notre humanité révoltée contre son Créateur. Troisième remarque. un des objectifs de cette fécondité, c'est de remplir la terre. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous voyez, il y a comme une progression dans la formule. Soyez féconds, c'est ce qui se passe au niveau conjugal, au niveau du couple. Chaque couple est plus ou moins fertile. Ensuite, multipliez-vous. On passe au niveau familial, avec l'arrivée des enfants. Il n'y a plus seulement deux, un homme et une femme, mais trois, quatre, cinq, selon la fécondité d'un couple. Et troisièmement, remplissez la terre. Là, on va au-delà de la famille, au-delà des familles, au-delà des clans, pour remplir la terre tout entière. Soit parce qu'il n'y a plus assez de place pour une seule famille à un seul endroit, soit parce qu'il n'y a pas assez de ressources et qu'il faut se déplacer. Et donc, cela va jusqu'à un niveau de mondialisation, comme on dit aujourd'hui. C'est d'ailleurs à ce niveau de mondialisation que la fameuse tour de Babel, que l'on verra un petit peu plus tard dans le récit de la Genèse au chapitre 11, a posé un problème. Après le déluge, que l'on trouve dans les chapitres 6 à 8, Dieu donne un nouveau départ à l'humanité à partir de la famille de Noé. Et on retrouve exactement la même formule que dans notre texte de ce matin, au chapitre 9 et au verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils, ils sont sortis de l'arche, après que la terre est séchée, et il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Exactement la même formule que pour l'homme et la femme en Genèse chapitre 1. Juste après, au chapitre 10, on a la liste des personnes qui se sont, nous dit le texte, répandues sur la terre après le déluge. Genèse 10, verset 32. Et au chapitre 11, que se passe-t-il ? Les hommes arrêtent de remplir la terre, de se disperser, de migrer, pour se fixer en un seul endroit où ils parlent tous la même langue. C'est-à-dire, en gros, ils se sont mis d'accord pour ce projet de sédentarisation, de rester à un seul endroit et de ne plus remplir la terre, et donc de désobéir à l'ordre du Créateur. Et ce projet est contraire à l'appel de Dieu de remplir la terre. Et donc, Dieu va intervenir dans cet épisode de la tour de Babel pour disperser à nouveau l'humanité, pour qu'elle continue d'exister, parce que sinon elle se serait éteinte. On reparlera de la tour de Babel un peu plus tard. Alors, on pourrait dire que depuis l'épisode de la tour de Babel, notre humanité s'est bien multipliée, n'est-ce pas ? Je vous donne quelques chiffres que j'ai trouvés sur le site planetoscope.com. En 200 ans, c'est-à-dire entre 1815 et 2015, vous voyez, c'est une toute petite période dans notre humanité, la population mondiale est passée d'un milliard d'habitants à 7 milliards et demi. En 2050, dans 30 ans, la population mondiale devrait avoisiner les 10 milliards, selon l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Alors on pourrait penser qu'une telle croissance démographique est liée à la grande fécondité de notre humanité. D'ailleurs, dit Dieu, soyez féconds. Et on voit qu'on s'est bien multiplié. Pas du tout. En fait, le taux de fertilité par femme ne cesse de diminuer. C'est-à-dire que les femmes ont de moins en moins d'enfants. Et c'est particulièrement flagrant sur les continents considérés comme traditionnellement fertiles. Par exemple, en 1950, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça, hein, 70 ans, une femme avait en moyenne 7 enfants en Afrique, 6 enfants en Asie et en Amérique du Sud. Aujourd'hui, une femme africaine a en moyenne 4 enfants et ce chiffre tombe à 2 enfants pour une femme d'Asie et d'Amérique du Sud. Je ne sais pas si nos amis africains pourraient confirmer ces statistiques. Est-ce qu'on fait moins d'enfants en Afrique aujourd'hui ? Je ne sais pas. Voilà. Pour l'Europe, ce chiffre est à peu près stable. On a toujours plus ou moins fait autour de 2 enfants par famille. Il y a comme un paradoxe. On est moins fertile et il y a plus d'habitants. Comment est-ce qu'on explique ça ? Ça s'explique apparemment par la chute importante de la mortalité, et en particulier de la mortalité infantile. Les progrès techniques et scientifiques font que on vit plus longtemps et on meurt moins rapidement. Voilà. Il y a moins de mortalité infantile. Ces quelques données statistiques nous amènent à quelques réflexions pratiques. Que faisons-nous aujourd'hui, personnellement et collectivement, de cet appel divin ? Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est une vraie question. J'ai rencontré quelques couples qui disent soit ne pas vouloir d'enfant, soit vouloir se limiter à un enfant, peut-être deux maximum, parce que, disent-ils, on est déjà trop nombreux sur Terre. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Un autre argument qui est parfois avancé, pourquoi faire des enfants si c'est pour leur faire subir la violence et la pollution de notre société ? Ce serait criminel. C'est intéressant, pour protéger nos futurs enfants, on n'en fait pas. Nous vivons aujourd'hui dans un monde mondialisé, justement, et qui connaît beaucoup de mouvements de population, par exemple, notamment à cause des guerres. Or, notre monde est bien rempli en nombre d'habitants. Et donc, lorsqu'une population se déplace pour traverser une frontière, elle débarque chez le voisin, et pas sur une terre vierge inhabitée. Je n'avais jamais vraiment réfléchi à cela avant de préparer cette prédication, mais le malaise mondial concernant les phénomènes migratoires que nous connaissons aujourd'hui, et le rejet de l'étranger qui va en général avec, est lié quelque part à ce que nous avons rempli la terre, comme le dit Genèse 1. La question c'est de quelle manière et dans quelles conditions. Alors, cela ouvre tout un tas de questions ou de sujets. Je ne pourrai pas tout évoquer ce matin, mais prenons par exemple la question de la contraception. Faut-il prendre au pied de la lettre ce verset de Genèse 1:28 et procréer sans réfléchir parce que c'est un commandement de Dieu ? C'est un commandement de Dieu, ce n'est pas une option. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Là encore, j'ai entendu certains chrétiens dire que prendre la pilule ou utiliser un préservatif, c'est un péché, parce que c'est une manière de freiner la vie naturelle que Dieu nous donne. Mais dans notre contexte d'aujourd'hui, comment réfléchir à ces questions ? Un argument qui est parfois avancé, une peur concernant l'avenir de nos enfants, c'est aussi la question des ressources de notre planète. Ressources en eau, ressources alimentaires. Si la population mondiale continue d'augmenter à ce rythme, comment allons-nous donner à boire et à manger à tout le monde ? Là encore, c'est possible, techniquement. Mais les injustices de notre monde font que ça ne marche pas. C'est déjà pas le cas que tout le monde boive et mange à sa faim aujourd'hui. Et donc, la croissance démographique de notre monde aujourd'hui nous pousse à reconsidérer la gestion économique de notre monde. Les deux vont ensemble. Remplir la terre et se rendre maître de la terre. Et donc c'est là que nous passons au deuxième temps de notre prédication. Rendez-vous maître de la terre. Là aussi je ferai simplement quelques remarques. Première remarque, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il n'est pas demandé aux animaux de dominer, c'est une responsabilité humaine que Dieu nous confie, et dont nous devrons lui rendre compte. Deuxième remarque, cette autorité de l'homme et la femme sur le reste de la création, elle a aussi, comme la sexualité, une bonne chose, et même une très bonne chose, nous dit le verset 31. C'est Dieu qui nous demande d'exploiter la planète au sens positif de ce mot, c'est-à-dire de découvrir et d'utiliser les ressources que Dieu a mis à notre disposition pour que nous en jouissions, pour le bien de notre humanité et pour le bien du reste de la création. Le progrès technique est bon dans la mesure où il respecte la volonté de Dieu. Nous n'avons donc pas à rejeter le progrès technologique en tant que tel. L'idéal de la vie humaine, ce n'est pas de retrouver une soi-disant communion avec la nature en dehors des villes et de la technologie. Ça, c'est un mythe. Nous ne sommes pas appelés à vivre tout nus sur une île déserte en nous nourrissant de plantes et de racines. Le paradis est perdu depuis Genèse 3. Et nous ne le retrouverons qu'au moment du retour de Jésus-Christ, sur une terre qui sera alors débarrassée de tous les problèmes actuels. Mais nous n'y sommes pas encore. Troisième remarque, dominer la terre, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'agriculture, c'est la gestion des ressources d'eau, des sources d'eau. C'est l'exploitation des ressources minières. C'est la manière dont les hommes construisent la civilisation, les villes, les campagnes, les métropoles. C'est aussi la culture au sens large, la politique, l'économie, le progrès technologique et scientifique. C'est tout cela, dominer la Terre. Quel changement pour notre humanité quand nous avons inventé la roue ? Quel changement pour notre humanité quand nous avons inventé le smartphone ? Quatrième remarque. Ah oui, donc, Dieu n'est pas contre le progrès, d'accord ? Arrêtons de mettre en opposition la Bible et la science, ou le progrès technologique. Le problème, quatrième remarque, c'est le cœur humain, qui depuis Genèse 3 a transformé l'exploration, la découverte de la création de Dieu en exploitation égoïste. C'est quand l'homme utilise le progrès technique pour asservir la planète, plutôt que pour servir, que les problèmes commencent. Prenons un exemple tout simple. Vous savez comment est fabriqué votre smartphone, n'est-ce pas ? C'est quand même génial d'avoir dans sa poche un tel bijou technologique. Et je suis sûr qu'on est loin de ce que l'on sera capable de produire dans quelques années d'un point de vue technique. Ceci dit, quand on considère des critères comme le respect des droits de l'homme, l'écologie ou encore les conditions de travail, aucun, je dis bien aucun fabricant de smartphone n'est propre. En 2016, les pires marques au niveau éthique étaient Google, Sony, Samsung et Apple, pour ne citer que les plus connus. En gros, 90% des smartphones qui sont dans nos sacs ce matin. J'en vois qui glissent leur smartphone discrètement dans l'un. Samsung France, qui se vante, je cite, de devenir une entreprise citoyenne socialement et environnementalement responsable dans toutes ses communautés de par le monde, mondialisation, a été mis en examen cet été pour pratiques commerciales trompeuses. Des ONG, organisations non gouvernementales, dénoncent le décalage de Samsung entre le discours officiel et la pratique sur le terrain. Comment est fabriqué votre Samsung ? Dans plusieurs sites de fabrication en Chine, au Vietnam et en Corée du Sud, on a constaté ces dernières années que des femmes travaillent 12 heures par jour debout sans interruption. Que des enfants de moins de 16 ans, parfois des enfants de 7 ans, travaillent aussi dans ces conditions pour un salaire de misère. Ils sont parqués, c'est moi qui utilise ce mot, à la chaîne, par centaines, dans les usines de fabrication de nos smartphones, comme les bœufs ou les poulets dans les hangars dont nous avons parlé la dernière fois. Mais ce n'est pas tout. Le benzène, un produit chimique qui est utilisé comme nettoyant et comme enduit dans la fabrication des smartphones, intoxique les travailleurs, moi je dirais les esclaves, et serait responsable de la mort de plusieurs dizaines d'entre eux. Mais ce n'est pas tout. D'où viennent les batteries qui alimentent nos smartphones et nos voitures électriques par exemple ? La plupart de nos appareils électriques d'ailleurs. Des mines de cobalt, en particulier en RDC, en République démocratique du Congo. Qui va chercher ces minerais ? Des adultes, en général des hommes, et des enfants dans des conditions d'hygiène épouvantables. Mais ce n'est pas tout. Qui contrôle ces sites d'extraction de minerais ? Des groupes armés locaux qui financent ainsi leurs activités mafieuses. Indirectement, certains fabricants de smartphones participent à la corruption et au trafic locaux. Alors, Samsung se défend en disant qu'il ne peut pas contrôler tous ses prestataires. On s'en doute. À force de tirer les coûts de production vers le bas, en multipliant les prestataires, on ne peut pas gérer tous les détails. Mais l'entreprise est quand même responsable de sa course au profit et des moyens qu'elle met en œuvre pour vérifier ou au contraire pour fermer les yeux sur les conditions d'élaboration de ses produits. En résumé, nos smartphones, dont nous changeons du jour au lendemain parce qu'ils ne nous plaisent plus, sont fabriqués en exploitant les malheurs de dizaines de milliers d'autres êtres humains, comme nous, en particulier des enfants. Il est beau, votre Samsung Galaxy, n'est-ce pas ? Il a un bel écran et il télécharge rapidement les vidéos. Mais à quel prix ? Et là, je ne parle pas des centaines d'euros que nous sommes prêts à mettre dans un Samsung Galaxy. Je parle du prix humain, du prix écologique, du prix moral que cela coûte à notre humanité et à notre planète. C'est ce prix-là que nous cautionnons. Et cela ne plaît pas à notre Créateur. Parce que nous avons transformé notre exploration de sa magnifique création en exploitation égoïste et violente. Notre humanité s'est détournée de sa belle vocation. Au lieu de servir Dieu et sa création, nous avons asservi la création. Nous avons fait de notre planète notre esclave. Nous avons fait de nos semblables nos esclaves. Nous avons une responsabilité, même si nous vivons à des milliers de kilomètres de ces mines qui fournissent les composants de nos smartphones. Cinquième et dernière remarque sur ce verset. Dans notre verset 28, rien ne sépare la formule « remplissez la terre » et la formule « rendez-vous en maître, dominez-la ». Je relis encore une fois notre verset d'aujourd'hui. Dieu les bénit en disant « soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes ». La responsabilité humaine concernant la procréation, que nous avons vu dans la première partie, est dans la même phrase que la responsabilité de gérer la terre. Et on voit bien aujourd'hui que ces deux questions sont liées. Nous sommes nombreux sur Terre et nous gérons mal les ressources de notre planète. Alors il y a du bon quand même, mais c'est compliqué. Tout est lié. Les questions démographiques et les questions des ressources naturelles. Et c'est pas pour rien que les groupes armés essayent de contrôler les mines, parce que c'est des ressources et ça permet des transactions commerciales. Hein. Dans notre exemple là, de l'extraction minière au Congo, rien ne profite aux populations locales. Au contraire, il semble que ces villages, ces villes autour soient parmi les plus pauvres de notre planète. Alors que ces ressources brassent des millions, des milliards. Sans parler de la pollution liée à l'intensification de l'exploitation minière qui est en train de décimer la population locale. Les gens attrapent des cancers et ils en meurent. L'eau est polluée, contaminée. Nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre et dans une perspective commerciale, cela fait beaucoup de consommateurs à satisfaire et donc beaucoup d'argent à gagner. Nous sommes en train de piller les ressources de notre planète pour satisfaire nos propres appétits de consommateurs insatiables. Nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Et un jour, la branche va tomber et nous avec. Alors, si nous sommes chrétiens, qui sommes rassemblés ici ce matin. Nous ne pouvons pas faire l'économie de cette question. Comment dominons-nous notre terre aujourd'hui ? C'est une vraie question personnelle et collective. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, dit que toute la création soupire, attend avec impatience sa délivrance. Alors, la délivrance arrivera le jour où Jésus revient et où il renouvellera toutes choses. Le monde tel que nous le connaissons actuellement va disparaître un jour et laisser place à une nouvelle création qui sera alors utilisée d'une manière juste par ceux qui appartiennent à Dieu. En attendant, nous vivons sur cette terre que nous exploitons mal et nous en sommes toujours responsables devant Dieu. Cela n'a pas changé puisque c'est la mission qu'il nous a confiée au commencement. Genèse 1, verset 28. Il est donc de notre responsabilité d'homme et de femme aujourd'hui, surtout si nous sommes chrétiens, d'avoir un comportement de consommateur qui honore notre Créateur. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire « Amen » à la publicité dont nous sommes quotidiennement gavés, surtout en cette période de Noël. Notre société court après l'argent et le profit. Il ne doit pas en être ainsi dans nos vies, frères et sœurs. Dieu nous a confié une belle mission. Rendez-vous maître de la terre. Et tout ce qui s'oppose à une saine exploitation de notre planète devrait nous donner envie de vomir tout ce qu'on essaye de nous faire avaler à coups de promotion et de Black Friday. Vous savez ce que c'est le Black Friday, n'est-ce pas ? C'est ce qui est en train de devenir la fête de l'esclavage moderne. Alors ça a commencé par une journée, puis ça prend le chemin d'une semaine. Et tout le monde applaudit, et tout le monde glorifie le Black Friday. Mais je peux vous garantir que les salariés d'Amazon, pour ne citer qu'eux, ne font aucune affaire pendant le Black Friday, parce qu'ils sont exploités par Amazon. Qu'est-ce que nous faisons quand nous profitons des soldes du Black Friday ? En fait, il y a trois types d'esclaves dans notre monde moderne. D'abord, les esclaves qui subissent la loi du plus fort et qui, par nécessité, le plus souvent, acceptent de travailler trop pour un salaire de misère et dans des conditions déplorables. Des enfants, souvent. Ces êtres humains sont esclaves de la pauvreté, des inégalités de notre monde, des injustices. Le deuxième type d'esclaves, ce sont ceux qui se prennent pour des maîtres et qui exploitent les plus faibles dans leur course au profit et qui ne se rendent pas compte qu'ils sont esclaves de leur amour de l'argent et du pouvoir. Et puis, la troisième catégorie d'esclaves, ce sont ceux qui entretiennent le système, les consommateurs. C'est parce qu'il y a de la demande qu'il y a de l'offre. C'est parce que nous voulons un Samsung Galaxy ou le dernier iPhone qu'ils sont fabriqués avec le sang d'autres êtres humains. Notre manière de consommer aujourd'hui a une influence sur l'exploitation de notre planète. Alors, il n'existe qu'un seul moyen de sortir d'une de ces trois formes d'esclavage. C'est de laisser Dieu, notre Créateur, réformer nos cœurs, nos mentalités, pour reprendre notre place de créature et obéir à la mission qu'il nous confie jusqu'à sa venue, dominer la terre d'une manière qui lui plaise. Et cela passe par des choix de consommation plus justes. Une nouvelle époque, une nouvelle ère a démarré depuis la résurrection de Jésus-Christ, il y a 2000 ans. Dieu est en train de construire une nouvelle humanité, l'Église, qui a pour fondement l'amour du prochain, plutôt que l'amour de l'argent, Jésus est celui qui a le plus parlé de l'argent dans le Nouveau Testament. Et qu'il fallait choisir entre servir Dieu ou servir l'argent. Et cette nouvelle humanité, l'Église, habitera un jour sur cette terre, notre terre, débarrassée de toute corruption, qu'elle soit politique, économique, écologique ou financière. Frères et sœurs en Christ, ceux qui parmi nous sont frères et sœurs en Christ, qui appartiennent à Dieu, cette planète est la nôtre. Ceux qui la pillent aujourd'hui en seront chassés et vivront éternellement loin de leur Créateur. Les bons choix que nous ferons cette semaine peuvent être un témoignage pour les autres de ce que c'est que d'être chrétien dans un monde pourri par la corruption. Leur montrer qu'ils sont dans l'obscurité et qu'ils ont besoin de la lumière de Dieu pour changer de vie avant qu'il ne soit trop tard. Ne soyons pas timides. Dieu nous a confié une autorité, celle de dominer sa création. Faisons-le cette semaine d'une manière qui lui plaise. Je vous invite à prier. Dieu, merci pour ta parole. Merci de nous ramener à cette mission, à cet appel que tu as donné à notre humanité il y a bien longtemps et qui est toujours valable aujourd'hui, même si notre monde est corrompu et ne tourne pas rond. Cet appel résonne encore à nos oreilles aujourd'hui. Et je te prie qu'il puisse aussi résonner dans notre cœur pendant cette semaine. La tâche qui nous est confiée peut nous paraître immense. Et nous ne pourrons pas régler tous les problèmes qu'il y a dans ce monde, toutes les injustices. Mais aide-nous aujourd'hui, cette semaine, à ne pas passer à côté des occasions que tu nous donnes de montrer à nos proches, à notre entourage, que nous avons entendu ou réentendu cet appel que tu nous lances et que nous pouvons faire de meilleurs choix. Montre-nous à chacun d'entre nous, à chacun de nos couples, de nos familles, à notre communauté aussi, comment nous pouvons mieux répondre à cet appel que tu nous lances aujourd'hui. Comment nous pouvons mieux vivre notre vie de couple et notre sexualité d'une manière qui t'honore. Que nous puissions mieux vivre les hommes et les femmes ensemble. Une manière de gérer cette planète, de gérer nos déchets, de gérer nos choix de consommation d'une manière qui t'honore. Donne-nous le courage de le faire. Donne-nous aussi les occasions de faire la différence et de montrer par nos paroles et par nos actes que tu as changé nos vies. Et que c'est pas seulement des mots, mais que ça se traduit aussi dans notre mentalité, que ça se traduit aussi dans notre manière de ne pas faire ce que tout le monde fait, de ne pas consommer comme tout le monde, mais de réfléchir, de nous placer devant toi et de chercher et de faire ta volonté. C'est dans le nom de Jésus que nous te demandons ton aide. Amen.